Bonjour à tous et bonjour à toutes, merci d'être avec nous. Nous continuons nos rendez-vous avec la Morgue, l'ancien mystique ordre de la Rose-Croix, et notamment aujourd'hui avec François Bilieu, qui est conférencier URSI dans la section musique pour la Morgue. Alors l'URSI, c'est une université, hein, c'est ça, monsieur Bilieu? Bonjour.
Oui, bonjour. Oui, tout à fait. C'est une université, c'est une émanation, en fait, de l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix, en fait. Hein. C'est une sorte de centre de recherche, de collecte de connaissances, hein, et puis donc il y a beaucoup de sections au niveau de l'URSI, section médecine, section spiritualité, enfin en général tout ce qui est par exemple les philosophies, et puis donc la science également est représentée. Donc on a chaque conférencier finalement est un spécialiste dans son domaine et apporte la connaissance au service de la spiritualité, on peut dire ça comme ça.
Vous êtes plus spécialisé dans l'électronique, c'est ça?
Alors disons qu'au départ, je suis ce qu'on appelle un technicien ou un musicien du son. Donc, j'ai fait des études d'électronique et normalement j'aurais pu être ingénieur du son. Et puis donc les aléas de la vie m'ont amené en fait à changer d'orientation pour mieux gagner ma vie, j'allais dire. Et je me suis intéressé à la musique sous la forme la plus profonde à mon regard. C'est-à-dire, je pense que le son c'est une chose, mais il y avait quelque chose derrière la musique de tellement passionnant, de tellement, comment dire, qui prenait tellement au niveau des sentiments, au niveau de la sensibilité personnelle, que je ne comprenais pas bien en fait pourquoi la musique avait un tel écho et une telle répercussion sur l'être humain. Et j'avais beau étudier tout ce qui est acoustique, tout ce qui est nature matérielle, on va dire, du son, mais je n'avais pas de réponse. Je n'avais pas du moins des réponses suffisantes. Et en fait, c'est une voie spirituelle en fait qui m'a permis de comprendre, c'est-à-dire la partie spirituelle de l'univers, de ce qui existe autour de nous, que nous ne voyons pas, que les scientifiques ne voient pas, mais donc on peut commencer à sentir les répercussions en fait. Hein. Et je me suis intéressé à la nature donc spirituelle de la musique, la nature du son, et je me suis aperçu que les anciens avait une connaissance déjà dans ce domaine-là. Par exemple, Pythagore avait déjà une connaissance, Platon aussi, tant et si bien que la musique de leur temps était considérée comme un art majeur, c'est-à-dire qu'en fait, il était enseigné déjà aux enfants et aux adeptes hein, qui suivaient l'enseignement du maître Pythagore. Et c'est intéressant de voir que finalement, leur philosophie, c'était de dire « plus nous allons intégrer la musique dans notre vie et dans notre intellect », et plus nous allons rendre l'homme meilleur, parce qu'il va avoir en fait des vibrations ou des énergies qui vont lui permettre de se développer intellectuellement, mais également moralement. D'où l'intérêt d'avoir une société meilleure par l'apprentissage de ce qu'on appelait à l'époque des arts libéraux, dont notamment la musique qui englobait tous les autres, par exemple les mathématiques, la rhétorique, etc. Et donc, sur ma voie spirituelle, moi j'ai choisi l'ancien mystique ordre de la Rose-Croix, hein, qui est une voie royale à l'heure actuelle, c'est une des voies royales qui existe à l'heure actuelle. Et je me suis aperçu en fait que les anciens connaissaient déjà, en fait, avaient déjà une connaissance de la nature spirituelle de l'univers déjà. Ils savaient qu'il y avait un univers matériel, mais également un univers immatériel. Et donc je me suis dit, si l'univers lui-même a cette dualité, bah, automatiquement, tout ce qui existe a également une dualité. Et le son, eh ben, il ne déroge pas la règle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, étant moi-même aussi un petit peu branché sur ce qu'on appelle la composition musicale ou la réalisation d'œuvres maintenant avec tous les outils qu'on a, qui sont merveilleux, le mécanisme d'inspiration m'a vraiment passionné. Il m'a interloqué parce que je ne comprenais pas pourquoi il y avait des sons qui arrivaient comme ça, par exemple dans ma tête, et que la plupart des compositeurs d'ailleurs peuvent ressentir. Il n'y a pas que la musique d'ailleurs, il n'y a pas que les compositeurs, mais aussi les peintres, les écrivains, c'est le même processus. En fait, toute création artistique, on peut dire, a ce même processus. C'est-à-dire en fait, on ressent quelque chose de l'intérieur et il arrive à notre conscience. Mais le mécanisme, il est en grande inconnue. Alors, en psychologie, eh bien, on va dire que c'est effectivement la stimulation d'émotions, de souvenirs, et puis de choses qui sont ancrées en nous, comme des schémas de structures musicales qu'on a déjà entendues. Ça, c'est l'aspect matériel. Mais au-delà de ça, le fait que ça crée des émotions si fortes, que ça ouvre notre créativité, la musique, indéniablement, non seulement apporte un plus sur le développement de l'être humain en tant qu'individualité, c'est ce qu'on appelle du développement personnel, hein, c'est-à-dire que ça ouvre des qualités intellectuelles qui sont beaucoup plus aiguës, beaucoup plus vastes. Il y a certains neuropsychologues d'ailleurs qui parlent d'une symphonie neuronale, tellement ça sollicite le cerveau. Eh bien, c'est magnifique de voir que la mécanique d'inspiration est quelque chose à la fois de simple et de subtil. Elle est pratiquement indécelable. La science ne peut pas vraiment l'expliquer, on ne peut pas savoir ce que c'est vraiment que la créativité ou ce que c'est que l'inspiration. Et les spiritualistes ont des réponses. Et les réponses m'ont profondément convaincu, je l'ai moi-même expérimenté, et je me suis aperçu qu'il y a une sorte d'ouverture de la conscience. Alors maintenant, en psychologie ou en développement personnel, on parle de modification d'état de conscience. C'est très oui. Je ne veux pas dire à la mode, mais c'est très courant maintenant d'utiliser ce terme-là, vous voyez. Et cette modification d'état de conscience crée une sorte de chemin direct vers des plans, on va dire, plus subtils. C'est ce qu'on appelle notre intériorité quand on fait la méditation, pour les personnes qui prient. C'est cette espèce de recentrage et de sensation, en fait, de choses qui, à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on n'arrive pas à définir, mais qui nous apportent d'abord un bien-être complet, une relaxation complète, mais aussi plein de créativité, plein d'idées. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors j'ai trouvé des réponses, vous voyez.
Ce que je voulais dire, c'est qu'on le voit aussi dans les rituels avec de la transe. La musique fait entrer des personnes en transe. Ça change complètement leur état, alors pas seulement de conscience, mais aussi physiquement, quoi.
Absolument. Alors, vous avez également comme exemple les chamans, hein, qui utilisent également ce genre de procédé. Vous avez les mantras, c'est-à-dire qu'on de psalmodier, toujours les mêmes sons. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le but, finalement, et qu'on peut faire naturellement par la méditation, c'est de se débrancher petit à petit de la conscience que nous avons, comme par exemple en ce moment où là je vous parle et vous m'écoutez, et les auditeurs qui sont là en train d'écouter, il y a quelque chose qui est en train de se passer, on ferme petit à petit les portes de la conscience matérielle et on ouvre légèrement celle de l'inconscient. Les psychologues connaissent très bien ce phénomène-là. L'inconscient commence à nous parler. Et justement, la musique permet cette espèce d'ouverture. C'est comme des petits portillons, vous voyez, qui s'ouvrent sur des plans de conscience différents. Et on en arrive finalement à entendre et à sentir un état qu'on n'a pas l'habitude de sentir dans la vie de tous les jours. J'allais dire fort heureusement.
Concrètement, selon la musique que l'on écoute à la maison, plus ou moins fort, on peut changer donc notre état personnel, intérieur, notre humeur, ce genre de choses.
Ah bah tout à fait. Alors là en plus, c'est chaque individu est un monde en lui-même. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui, par exemple, recherche la paix, eh bien, il va se mettre une petite musique de contemplative, on va dire, une petite musique douce. Ça peut être de l'Ave Maria de Schubert, par exemple, quelque chose de doux. Mais pour d'autres personnes, ça sera au contraire une balade moderne de variété, hein, de n'importe quel chanteur à l'heure actuelle qui nous fait vraiment vibrer, comme par exemple le Ne me quitte pas de Jacques Brel, par exemple. Voilà, il y a des personnes qui vont avoir cette cette carte d'identité particulière et cette sensibilité à choisir une musique qui va lui permettre de changer son humeur, mais aussi son état de conscience. Et puis, il existe aussi, à l'heure actuelle, beaucoup de recherches, sérieuses et peut-être aussi un petit peu plus farfelues, il faut le dire, mais quand même sérieuses, pour pouvoir trouver des musiques qui permettent à tout l'être humain, à toute la partie matérielle déjà de se détendre au niveau de la perception des sons, mais aussi de solliciter ce qu'on appelle la partie psychique. Vous savez, les maîtres du passé, ce qu'on appelle les maîtres du passé, genre comme je les ai cités, Pythagore, Platon et d'autres, considéraient qu'en fait le corps humain, il est grosso modo, hein, je schématise, il y a trois plans de conscience, il y a le plan de la matière, le plan psychique et le plan spirituel. Voilà. Eh bien, la musique a cet avantage, c'est qu'elle a un large spectre. C'est-à-dire qu'elle va, en fait, travailler sur les trois plans en même temps. Donc, vous vous relaxez physiquement, vous vous sentez inspiré sur un plan psychique, et vous allez communier, j'allais dire, ou ou rentrer au plus profond de vous-même sur le plan spirituel. Vous voyez, c'est ça l'intérêt aussi de pouvoir choisir une bonne musique adaptée à votre personnalité.
En parlant de ça, sur YouTube, on trouve souvent des musiques avec comme indication des hertz, des fréquences. On dit 432 hertz, par exemple, c'est la fréquence du bonheur qui guérit le stress, ou 852 hertz, c'est la fréquence de l'amour. Vous y croyez ? Vous pensez que c'est concret, ce genre d'affirmation ?
Alors, je pense qu'il faut pas avoir de langue de bois, faut être direct. Hein. Je suis aussi, je représente quand même une branche de recherche. À l'heure actuelle, le 432 Hz, je vais essayer de pas être trop technique. Vous savez, nous avons une gamme de ré mi fa sol la si do. Bon, on a ce qu'on appelle une gamme tempérée, donc avec qui nous permet de pouvoir travailler tous les sons avec un instrument, avec la voix, et surtout de travailler avec d'autres instruments. Mais nous nous sommes éloignés de la gamme dite naturelle. Et là, tout le problème est là. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, nous avons un diapason. Alors, diapason, c'est le la de la gamme hein, qui va envoyer 440 Hz. Ça, c'est notre diapason traditionnel qui est en vigueur dans la plupart des pays, surtout lorsqu'on a des orchestres symphoniques avec des contraintes, j'allais dire techniques, qui amènent justement à avoir une tension, soit au niveau des cordes, soit au niveau du réglage des instruments, adaptée à l'exécution des œuvres modernes. Mais effectivement, dans le passé, nous avions des diapasons qui étaient réglés à 415. Pourquoi ? Parce qu'on avait des instruments qui étaient un peu plus fragiles, qui étaient techniquement plus difficiles à régler avec des fortes tensions, et parfaitement adaptés à la facture des instruments de l'époque. Mais les anciens savaient aussi qu'il y avait certaines fréquences, et certains réglages, notamment au niveau du la, qui apportaient des bienfaits. Par exemple, 432 Hz, on dit que c'est la fréquence de l'eau, on dit que c'est la fréquence fondamentale qui permet une écoute de plénitude, d'écoute vraiment d'intériorisation. Enfin, ça a beaucoup de bienfaits, mais je parle du la à 432. Alors là, effectivement, je suis d'accord, il y a certaines fréquences qui sont parfaitement en harmonie, en résonance, avec des parties de notre corps qui vibrent naturellement. Notre gamme de 440, elle correspond en fait entre guillemets à rien. C'est-à-dire qu'en fait, elle est pratique, elle est formidable. Hein. En tant que musicien, on peut tout faire. On transpose, on joue tous ensemble, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, elle s'est dénaturée par rapport à la valeur d'origine. Normalement, nous aurions dû effectivement régler des fréquences plus basses. Je ne suis même pas sûr que ce soit le 432. Il y a des fréquences traditionnelles qui existaient avant, qui étaient un petit peu plus basses encore que celles-là, et avec des centièmes de fréquence, vous voyez. Donc là, on en arrive à une gamme qui est réglée sur le la à 432. C'est parfait, mais il n'y a que le la qui est bon. Ce qui est dommage, c'est que toutes les personnes, mais je pense qu'il y en a des très sérieuses qui sont en train de travailler la question, il faudrait en fait qu'elles fabriquent des gammes si elles le veulent à 432, mais des gammes naturelles, c'est-à-dire où la quinte et la quarte soient correctement réglées, parce que là, toutes les autres notes sont, entre guillemets, fausses. Elles ne correspondent plus à rien, vous voyez ?
Il n'y a que le « la » en 432.
Je ne sais pas si j'étais...
voilà. Pour les profanes que nous sommes, et moi notamment, ce que je ne comprends pas, c'est quelle est la différence ? Parce que quand on écoute deux morceaux sur YouTube, dans un qui est marqué 432 Hz ou un autre qui est de la musique classique, par exemple, on ne remarque pas à l'oreille quelque chose de très différent. Il n'y a pas, c'est pas plus aigu, c'est pas...
Vous avez raison. La différence, elle est quand on compare les deux sons simultanément. Par exemple, prenez les premières mesures de l'Ave Maria de Schubert à 440, tel qu'il est enregistré à l'heure actuelle. Prenez-le ensuite, écoutez-le tout de suite après à 432. Vous allez sentir, déjà c'est un petit peu plus bas au niveau du réglage. Bon, c'est subtil, hein. Mais effectivement, au niveau de la matière, on sent rien. On dit sur le plan physique, sur le plan corporel, c'est sur le plan psychique où il se passe certaines petites choses. Mais encore une fois, elles sont imperceptibles parce qu'il n'y a que le « la » qui va vibrer à cette fréquence de 432. Toutes les autres notes, elles vont être tempérées, elles correspondent à rien. Elles correspondent plus à rien. C'est ça qui est dommage, voyez. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait reconstituer des gammes avec des valeurs particulières pour une manip particulière, comme le 432, mais avec une autre forme de gamme, c'est-à-dire en modifiant ce qu'on appelle surtout la canne, c'est-à-dire par exemple du do au sol. Hein. Il faut vraiment revoir, comme les anciens nous l'avaient appris, refaire des gammes naturelles et pas des gammes tempérées.
D'accord. Donc, voilà. On peut dire à nos auditeurs, quand vous voyez marqué 432 Hz, ça veut dire que vous entendez que le la, quoi. Donc, la musique que vous allez écouter ne va pas ouais. vous guérir spirituellement.
Ben, disons qu'il y en a peut-être qui existent sur la gamme naturelle. Personnellement, je n'ai pas investigué, je n'ai pas cherché. Je suis sûr qu'il y a les gens qui font vraiment avec le cœur. Ça, on ne peut pas retirer ça. Mais en tant que musicien spiritualiste, il est important de revenir à une gamme naturelle si on veut vraiment coller avec les effets que certains réglages de diapason peuvent apporter. Concrètement, c'est ce que nous faisons d'ailleurs à la morgue.
Pardon, concrètement, dans la vie quotidienne, est-ce qu'on a une utilisation de cette nature immatérielle et spirituelle de la musique ? Alors, j'ai entendu parler que pour les animaux, par exemple, sur les vaches, ça pouvait leur permettre de faire du meilleur lait.
Mais oui, c'est vrai.
Vous partagez ce
les vaches. Alors, les vaches aiment beaucoup Mozart. J'ai fait une conférence, d'ailleurs, sur l'incidence de la musique dans le règne animal, où justement, on s'aperçoit que tous les animaux qui sont proches de l'homme, enfin, proches de l'être humain, eh bien, ont cette particularité d'être de plus en plus sensibles à ce que l'être humain, justement, écoute comme musique. Alors, les vaches, elles sont très proches de nous, elles se sentent à l'aise, elles se sentent bien quand elles écoutent, par exemple, du Mozart. Ça, c'est indéniable, c'est les scientifiques l'ont prouvé. Et effectivement, ça améliore leur productivité, leur manière de se comporter, les maladies sont moins importantes. Enfin, il y a vraiment des bienfaits. On s'aperçoit que les vibrations de la musique ont un impact déjà au niveau de la matière, du corps, mais également dans l'état d'esprit du règne qui l'écoute. Et je dis règne parce que les végétaux, c'est pareil, hein, ils sont très sensibles à la musique, à une certaine forme de musique. Et j'ouvre une petite parenthèse très rapide. Ça s'explique très bien parce que dans l'enseignement justement des philosophes du passé et des sages, et dans l'enseignement, par exemple, des voies spiritualistes, hein, comme la mort, eh bien, on nous enseigne qu'en fait, c'est parce qu'il y a une conscience dans la matière, dans l'être humain, en fait, hein, ou dans un animal, ou dans un végétal, qui est justement affectée par cette nature spirituelle de la musique. S'il n'y avait pas de conscience, il n'y aurait pas, en fait, d'interactivité, il n'y aurait pas d'interaction. Mais comme il y en a une, si faible soit-elle, entre guillemets, au niveau des plantes, et quand même certaines plantes sont très sensibles, plus on monte dans les règnes vers l'être humain, et plus la conscience est éveillée, et plus donc on est affecté par la nature spirituelle de la musique. C'est pour ça qu'on a des effets qui sont passionnants.
D'accord. Parlons de spiritualité, on parle souvent de la musique des anges, mais est-ce que vous savez ce que c'est, vous ?
Waouh, c'est une question. On a une heure devant nous, ça devrait aller. Alors, la musique des anges, oui. Je ne sais plus qui le philosophe a dit que le chant, par exemple, est la dernière manière qu'ont utilisé les anges pour nous parler. C'est un peu poétique, c'est très très beau. Alors, les anges, personnellement, tant que spiritualiste, pour moi, les anges n'existent pas sous la forme qu'on pense, c'est-à-dire avec des petits enfants avec des petites ailes. Ouais. Voilà, c'est ça. Ce sont des principes d'énergie. Alors, ça fait partie de ce qu'on appelle la structure de l'univers. On ne va pas rentrer dans les détails. Pour les auditeurs qui sont intéressés par ça, effectivement, ils peuvent aller voir sur Internet l'arbre de vie, par exemple. Bon, alors l'arbre de vie, c'est une représentation schématique de l'univers, mais sur un plan spirituel. On s'aperçoit que tout le processus de la création depuis le Fiat Lux a permis une condensation de toutes les énergies et de certains principes qui font qu'ils sont tellement subtils que quelquefois, comme par exemple Jean-Sébastien Bach, quand il écrivait sa musique, il considérait qu'il était le porte-parole de la musique des anges. Parce qu'il entendait une musique tellement belle, tellement angélique. Prenez l'exemple, c'est écouter la fin de la messe en si mineur de Bach, et vous verrez la perception et comment il a pu retraduire cette sensation qu'il avait de ce qu'on appelle les plans angéliques. Les plans angéliques, c'est quoi ? C'est juste dans une vibration beaucoup plus subtile que nous, nous avons effectivement des plans où on peut entendre et sentir des choses très différentes du monde matériel que nous vivons. C'est une démarche vraiment purement spiritualiste. Il faut l'expérimenter pour y croire, j'allais dire. Hein, moi, c'est pas une croyance, c'est une conviction, parce que je l'ai moi-même expérimenté. On est dans un autre plan de conscience et on est en communication avec. Alors, pour certains, c'est facile de dire que ce sont des anges, c'est pratique, c'est pédagogique. Pour moi, ce sont des principes d'énergie qui nous amènent à nous élever intérieurement et avoir une perception beaucoup plus large de la vie et de l'univers.
Parlant d'univers, on dit qu'il y a également une musique dans l'univers.
Non de, alors, de la galaxie, je pense que vous faites référence à ça. Ouais. Oui, la musique des sphères, peut-être.
Hein. Oui, peut-être.
Ça, c'est encore un gros sujet. Alors, la musique des sphères... Non, mais c'est intéressant, c'est bien, parce qu'après, effectivement, les auditeurs peuvent aller chercher plus en détail. Alors, la musique des sphères, au départ, le terme n'est pas bon. En fait, c'est l'harmonie des sphères. L'harmonie des sphères, c'est Pythagore le premier qui en a parlé. Il s'est aperçu que tout l'univers est structuré par les nombres. Et d'ailleurs, dans certains courants philosophiques et religieux, on parle que Dieu, entre guillemets, est le grand architecte de l'univers. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que tout l'univers est créé selon une harmonie des nombres, selon des proportions qui sont mathématiquement parfaites. Alors, le nombre d'or en est une preuve. Et Pythagore considérait qu'effectivement, entre les planètes, il y a une distance particulière dans notre système solaire. Eh bien, chaque intervalle entre le Soleil et une planète, ou entre les planètes elles-mêmes, eh bien, était assimilable à la gamme naturelle que nous avons en musique, par la génération des sons. Et puis après, vous avez... ça m'échappe. Un autre philosophe, Kepler. Voilà, Kepler, qui a considéré qu'en fait, il y avait également une harmonie, mais par la vitesse de rotation des astres. À l'époque, on n'avait pas les possibilités de connaissances d'acoustique que nous avons à l'heure actuelle. Bien évidemment, quand un astre tourne dans l'espace, il ne procure aucun son. Mais attention, aucun son physique. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas d'air. Parce que pour qu'un son se propage, il faut qu'il y ait de la matière, soit gazeuse, liquide ou solide. Or là, ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir une transmission de son d'une planète à l'autre. On utilise d'autres artifices comme les ondes électromagnétiques. Alors, les astronomes de l'époque considéraient que la rotation des astres provoquait une musique particulière que l'on pouvait percevoir. Et effectivement, si on écoute avec d'autres oreilles que nos oreilles physiques, et d'ailleurs les bouddhistes ont une très très belle métaphore là-dessus, ils parlent d'une oreille super... super important par rapport à... Ils ont un terme particulier, pardonnez-moi. le terme m'échappe, mais ils parlent d'une super oreille qui, effectivement, n'est pas l'oreille physique, mais qui nous permet de percevoir des vibrations que les astres font parce qu'évidemment, ils vibrent comme la matière. Et je pense qu'à un moment donné, quand nous faisons de l'introspection, nous entendons nous-mêmes une sorte de bruit et de son qui émanent de notre organisme aussi, parce que toutes nos cellules vibrent, et toutes nos, jusqu'à l'atome, jusqu'à la molécule, hein, la plus petite parcelle de notre cellule, elle vibre. Donc tout est cohérent, mais encore une fois, on ne peut pas entendre de la musique des sphères avec nos oreilles normales. Hein. Il faut partir à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir sentir quelque chose.
Même voilà. Si on a l'oreille absolue, comme on dit. Mais on peut lire un peu quand même l'univers ou la galaxie comme une partition, quelque part, si j'ai bien compris.
Ah ça c'est beau, ça, comme phrase. Oui, effectivement, c'est la partition que les principes de la création ont écrit pour nous donner la plus belle musique qui soit lorsqu'on est sur notre bonne vieille terre, en proie à nos vicissitudes. Alors l'oreille absolue, quand même, juste une parenthèse, vous avez utilisé le terme, l'oreille absolue, c'est la faculté qui permet d'entendre un son tout de suite. Par exemple, je lâche une règle sur une table, je définis la note, vous voyez. Donc l'oreille absolue, c'est la perception de la fréquence exacte de tout ce qui peut exister. Et en musique, on utilise surtout le son relatif, c'est-à-dire l'intervalle relatif, l'oreille relative, qui permet justement de différencier la différence entre deux notes. C'est ce qui nous permet de chanter naturellement ou de déchiffrer à vue une partition, par exemple.
D'accord, ou de chanter complètement faux si on ne l'a pas. ce qui peut arriver aussi.
Ah oui, mais ça s'apprend. C'est une éducation de l'oreille, c'est rien.
Notre ami Monsieur Sicard de la Morgue me signalait qu'il y aurait bientôt une émission sur YouTube sur le même thème. Vous êtes au courant?
Alors, j'ai pas entendu le début de votre phrase, ça a coupé. Vous disiez que...
Notre ami de la morgue, M. Sicard, qui nous a mis en relation pour
l'émission,
m'a signalé qu'il y aurait une émission sur YouTube prochainement. Et peut-être vous pourriez nous en parler.
Alors, elle a eu lieu vendredi 11, c'était à 20h, à 19h, voilà. Et donc, elle est disponible sur YouTube. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, sur le site de la morgue, le site YouTube ou Facebook de l'ancien mysticor de la Rose 3, et vous mettez par exemple mon prénom et mon nom, et vous aurez tout de suite la conférence qui a été diffusée en direct le vendredi 11 à 19h. Alors, sur le même thème,
pardon, oui, j'allais donner l'adresse, c'est rosecroix.org, hein, rose-croix.org.
Voilà, le site. Exactement, .org, c'est ça. Oui. Alors donc là, effectivement, elle dure un bon quart d'heure, je fais un condensé, puis après il y a beaucoup de questions qui sont posées en direct, dont certaines sont du style de celles que vous m'avez posées, qui sont des questions fondamentales, et qui demandent, alors de toute façon, il faut savoir quand même que la morgue, évidemment, ne peut pas balancer comme ça, j'allais dire, une connaissance en très peu de temps. Il y a des conférences spécifiques qui existent, et donc dans mon cas, effectivement, j'en ai fait des spécifiques sur, par exemple, la nature spirituelle de la condition spirituelle des compositeurs, également le processus de composition, ça peut intéresser pas mal de musiciens, et puis bien sûr sur la musique en tant qu'outil de développement personnel. Il y a des thèmes qui méritent vraiment un développement, et même un séminaire d'ailleurs d'une journée complète sur ces thèmes-là, parce que la musique, c'est tellement vaste, elle touche tellement de domaines, et ce serait tellement fantastique que toutes les personnes à l'heure actuelle puissent vraiment utiliser la musique comme un outil de développement personnel, parce que elle ouvre des portes extraordinaires dans tous les domaines.
Et puis en ce moment, avec pas mal de personnes très énervées, tout ça, ça pourrait peut-être calmer un peu l'ambiance générale.
Ça, on dit toujours que la musique adoucit les mœurs. Oui. C'est pas pour rien. Je pense qu'indirectement, la musique peut permettre une vision différente de la vie. Je prends l'exemple, j'ai vu sur une émission à grande écoute, hein, sur une chaîne publique, on ne va pas citer les noms, donc il y avait donc un télécrochet très, très, très célèbre, et il y a une des jeunes filles qui est passée pour justement, et qui a d'ailleurs avait été choisie pour pouvoir continuer cette aventure-là, eh bien, a dit qu'à un moment donné, elle avait deux solutions pendant justement ces problèmes de confinement. Soit elle sombrait, parce qu'elle elle adorait la musique, mais elle était cloîtrée chez elle, elle pouvait rien faire en fait. Soit elle s'effondrait et elle tombait dans la déprime comme la plupart de ses copains et copines, soit elle se mettait à la musique à fond. Donc elle avait son petit piano, elle avait ses instruments, et elle a composé. Elle a composé, elle a entraîné sa voix, et vraiment la force du poignet, elle s'en est sortie, et elle a été vraiment une preuve flagrante pour toute notre société à l'heure actuelle, c'est que c'est important de se raccrocher à des valeurs du cœur, des valeurs profondes, c'est-à-dire fuir la peur, fuir tous ces problèmes d'intoxication, de problèmes qui n'ont de toute façon aucune solution à notre niveau, sinon de faire attention, bien sûr. Mais si on surfe sur des énergies aussi subtiles que la musique, ça va nous grandir, ça va nous ouvrir les horizons, ça va nous ouvrir l'esprit, et ça va nous donner du baume au cœur pour continuer à vivre, et à vivre surtout dans le bonheur. Parce que je le dis toujours, le but de l'être humain, c'est d'être heureux.
Et la musique peut y contribuer. En tous les cas, nous mettre dans un état propice à accepter le bonheur, en tout cas.
Complètement.
François Bilieu, merci beaucoup. On peut vous retrouver, vous, sur Facebook, où vous avez des conférences en ligne, en dehors du site de la morgue, rose-croix.org.
Non, j'ai travaillé que pour l'instant pour la morgue, et donc comme je suis conférencier officiel de l'URSSI, toutes mes conférences sont à disposition de la morgue, donc c'est sur le site Facebook et YouTube de la morgue que les auditeurs et vous-même pourrez les trouver. Pour l'instant, il y en a quelques-unes qui vont arriver d'ici quelques mois, parce que faut les élaborer, évidemment, ça demande du temps. Mais sinon, je parcours un petit peu la France en fonction donc des demandes, et toujours dans le cadre de la dynamique je veux dire, d'information que l'Ordre de la Rose-Croix fait à travers la France, la Belgique, la Suisse. Et donc, je suis présent dans la plupart des grandes villes pour donner ce genre de conférences. Donc, il y a un calendrier qui existe et qui apparaît sur le site de la Morque également au niveau de l'onglet conférences vidéo, manifestations publiques. Voilà.
D'accord. Sur Avignon, en tous les cas, la Morque propose des réunions tous les mois. Alors, je ne sais plus quand c'est, je crois que c'est un samedi par mois. Vous pouvez les contacter au 06 07 10 98 10, 06 07 10 98 10, pour prendre des renseignements, puis faire connaissance avec l'ancien et mystique Ordre de la Rose-Croix, parce que je crois qu'il y a quand même des sujets particulièrement passionnants, comme celui de la musique qu'on vient d'aborder. On aurait pu en parler des heures, mais malheureusement, le temps nous est compté.
C'est clair.
Le temps, c'est important aussi, d'ailleurs, en musique.
Ah oui, tout à fait, il faut qu'il soit bien réglé, oui.
Il faut que ce soit bien réglé. François Bilieu, merci beaucoup. Bonne
Merci à
continuation.
vous de m'avoir invité.
Et à très bientôt. Au
Au
revoir.
revoir.